Tournez dans le livre des Nombres. Ça a l'air à commencer raide ce matin, mais c'est pas le cas. Là. C'est juste une illusion d'optique, comme on dit. Livre des Nombres, au chapitre 13, Nombre 13, et le verset 16. Il nous est dit, « Tels sont les noms des hommes que Moïse envoya pour explorer le pays. Moïse donna à Hoshéa, fils de Nun, le nom de Josué. » Prions. Père éternel, nous te louons ce matin encore une fois, notre Dieu, pour ta parole. Seigneur, nous osons dire que nous vivons par ta parole, selon ta parole, ou à tout le moins nous désirons vivre selon ta parole et par ta parole, notre Dieu. Nous te prions encore ce matin, Seigneur, de venir à notre aide par la puissance de ton esprit, Seigneur, qui puisse nous diriger, nous conduire dans toutes tes voies à travers ta parole, Seigneur, à travers ce personnage de Josué. Seigneur, nous te prions de prendre le contrôle de nos esprits, Seigneur, afin qu'on ne soit pas emporté à tout vent. On est souvent facile à divaguer, Seigneur, et à se laisser donner libre cours à notre esprit, Seigneur, et qu'on puisse être concentré, Seigneur, notre Dieu, ce matin, pour ta parole qui est bienfaisante envers nous, Seigneur, et qui nous instruit, Seigneur Dieu, et que toute la gloire te revienne, notre Dieu, nous te prions dans le nom de Jésus. Amen. Amen. La dernière fois, nous avons commencé à étudier dans le livre de Josué. On n'était pas à notre première étude. Mais la question que nous avons posée et que nous avons essayé de répondre était pourquoi étudier le livre de Josué? Qu'est-ce qu'il y a concernant ce livre qui puisse nous exciter, qui puisse troubler nos affections, stimuler notre intellect, aussi bien qu'affermir, raffermir nos grâces, la foi, la patience, l'humilité. En résumé, pour dire qu'est-ce qu'il y a concernant ce livre qui puisse nous aider à mieux vivre pour Dieu. On avait vu, pour répondre à cette question, on avait apporté 5 arguments où on avait mis de l'avant 5 raisons et on va les énumérer pour faire peut-être une petite récapitulation. La première, c'était la raison historique, vous vous souviendrez. Josué est un livre historique. Il attire notre attention sur le courant de l'histoire biblique et nous laisse savoir que la plus grande histoire du monde, l'histoire de la rédemption, continue. Dieu va mettre de l'avant ses desseins, ses plans, en préparant le monde pour la venue du Messie. Il va établir un peuple distinct ou une nation sainte et va leur accorder les plus grandes habiletés, sécurité et solidarité. Une autre raison pourquoi ce livre est important et que nous devrions lui donner toute la considération est que c'est un livre concernant Dieu ou qui a un but théologique. Même si Josué est en quelque sorte l'homme clé, il n'est pas le héros de l'histoire. C'est Jéhovah qui est le héros de l'histoire. Le livre de Josué nous donne quelque chose comme un panorama de la gloire de Dieu. Tout au long du livre, divers attributs de Dieu y sont mis de l'avant, y sont soulignés. Nous pouvons y voir la fidélité, sa grâce, sa miséricorde, sa justice, sa colère, sa force, sa puissance, sa souveraineté. Oui, le livre de Josué nous donne de glorieuses visions de la gloire de Dieu lui-même. S'il n'y avait que cela, ce serait certainement digne de notre considération. C'est une maison de trésors, une perle de grand prix parce que Dieu lui-même y est déployé, y est exposé. Une troisième raison, de prendre ce livre et de travailler pour mieux le connaître et de développer une plus grande appréciation pour Josué est qu'il nous permet de voir notre Sauveur Jésus-Christ. Il a un but christologique centré sur la personne de Christ. Dans la perspective de l'Ancien Testament, Jésus y est en quelque sorte, on pourrait dire, entre guillemets, dissimulé. Cependant, nous le voyons. Il n'y est pas en haute définition comme il l'est dans le Nouveau Testament, dans les Évangiles ou dans les Épîtres, mais il y est. Il est là dans l'Ancien Testament, il est là dans les prophéties, il est là dans l'histoire. Et comme nous l'avons souligné la dernière fois, dans le nom même de Josué, qui est le nom hébreu pour Jésus, qui est une forme, une racine, une forme de la racine du mot, du nom de Jésus. Josué lui-même est un type de Christ, conduisant le peuple de Dieu, conquérant et vainquant leurs ennemis. Jésus est appelé le capitaine de notre salut. Il y a aussi ce que nous pouvons appeler une manifestation pré-incarnée du Fils de Dieu. Dans Josué 5, nous voyons Dieu dans une forme humaine, non pas par une vision comme nous le voyons dans le livre de Daniel, mais de façon tangible, il pouvait être touché, vu par Josué. Une quatrième raison pourquoi étudier et comprendre et même tirer profit de Josué est l'aspect géographique. Le livre de Josué met une grande emphase sur la terre promise, le pays promis. Le concept de la terre apparaît 50 fois dans le livre de Josué. Et cette promesse de la terre, du pays, se rapporte au temps d'Abraham. Ici, on peut se transporter au temps d'Abraham pour y voir l'émergence de la terre promise. Dieu garde ses promesses et pourvoit pour un héritage pour son peuple. Et nous ne devrions pas penser que ce concept de la terre promise, du pays, ne s'applique pas encore à nous. Si on pense aux béatitudes dans Matthieu, les béatitudes que Jésus nous a mentionnées dans Matthieu 5:5, « Bienheureux sont les doux, car ils hériteront de la terre. » Il y a de nouveaux cieux et une nouvelle terre. Chaque croyant a la promesse de la terre, du pays. Josué devrait nous donner cette anticipation spirituelle de notre futur héritage. Nous allons habiter le pays, de nouveaux cieux et une nouvelle terre. Une cinquième et dernière raison que nous avions donnée pour étudier le livre de Josué est le but pratique, pratico-pratique. Et nous voulons seulement y saisir une dimension en termes de praticabilité, si on peut dire ça de cette façon. Mais Josué est un livre qui transige avec la réalité de la guerre dans le temps présent et nous donne une image de la vie chrétienne. Il nous rappelle que la vie chrétienne n'est pas facile. Des batailles devront être remportées et peut-être que cette génération, plus que les précédentes, ont besoin plus d'entendre cela parce que nous avons été exposés en tant que les dernières générations à un temps facile du christianisme. Un évangile de santé, prospérité. Un enseignement de la vie prônée où vous pouvez avoir Jésus comme votre sauveur, mais pas comme Seigneur. De plus en plus de gens semblent s'être engagés dans un genre de spectacle de divertissement du christianisme, plutôt que d'une situation de temps de guerre. Christianisme centré sur Christ, centré sur la croix. Nous sommes dans une guerre et le livre de Josué nous laisse voir Josué sur un champ de bataille. Il n'est pas assis devant un téléviseur. Et il nous rappelle que nous aussi, nous sommes engagés dans une guerre. Maintenant, tout n'est pas négatif parce que Josué est un livre de conquête, de victoire. Et nous aussi, si nous sommes croyants, nous allons surmonter, vaincre nos ennemis par le sang de l'agneau. Pourquoi étudier Josué? C'était ces cinq raisons-là qu'on avait mentionnées la dernière fois, qui étaient un préambule à ce que nous allons voir ce matin. Maintenant, on va aller un peu plus loin dans notre considération de Josué. Et on va porter notre attention sur l'homme lui-même. Qui est-il? Le fait que le livre de Josué porte son nom nous suggère qu'il est une personne plutôt importante. Mais pourquoi est-ce que Dieu a choisi cet homme pour être le conducteur de son peuple? Pourquoi Josué a succédé à Moïse? Vous pouvez même vous étonner à savoir pourquoi Moïse n'a pas délégué le leadership, la conduite à un de ses deux fils. Nous voyons ici qu'il ne l'a pas fait. Il aurait été facile pour Moïse, dans la perspective émotionnelle, de laisser la succession à un de ses fils pour la garder dans la famille. Cela semble être un modèle, une continuité père et fils, si on pense au roi, si on voit un peu l'histoire des rois dans la parole de Dieu. Mais ici, ce n'est pas de cette façon-là que cela se traduit. Est-ce que Moïse a failli en tant que père? Est-ce que sa maison était divisée? Eh bien, nous n'avons pas les détails pour répondre à ces questions, mais cela ne signifie pas que nous ne pouvons pas répondre à la question concernant Josué, à tout le moins avoir un meilleur sens à savoir si Josué était l'homme de l'heure, l'homme du moment, de la situation. Et pour répondre à cette question, on a réellement besoin de faire un recul, un retour en arrière du livre de Josué. Dans le livre de Josué, on ne trouve pas de détails biographiques de sa vie concernant sa propre personne. Comme mentionné plus tôt, le livre de Josué n'est pas concernant Josué, mais c'est concernant Dieu. Donc, si nous sommes pour apprendre concernant Josué et avoir un meilleur sens à savoir qui cet homme était, nous devons reculer plus loin en termes d'histoire dans l'Ancien Testament, dans Exode, dans Nombre, dans Deutéronome. Alors, on va regarder à Josué à travers les yeux de Moïse. Moïse connaissait cet homme plus que n'importe qui d'autre. Il l'a vu de près. Et qu'est-ce que Moïse nous dit concernant Jésus? Concernant Josué, plutôt. Qu'est-ce que nous apprenons alors que nous essayons de collecter le matériel, de rassembler le matériel à partir de ces trois livres de Moïse, qui est l'Exode, les Nombres et Deutéronome? Et qu'est-ce que nous apprenons spécifiquement concernant Josué? Nous allons aborder ce texte à travers quatre thèmes qui sont: Josué était extraordinairement béni par Dieu. Josué était continuellement modelé, formé par Dieu. Josué était sévèrement testé par Dieu. Et Josué était patiemment préparé par Dieu. Alors, on va considérer Josué l'homme à travers ces quatre thèmes. Donc, le premier, Josué était extraordinairement béni par Dieu. Une des grandes bénédictions était d'être né dans une famille chrétienne où les parents servent Dieu, obéissent à Dieu. Et il nous apparaît ici que Josué soit né dans ce genre de famille. Vous remarquerez dans Nombre 13 son nom qui lui a été donné par ses parents, Oshéa, qui signifie délivrance. Apparemment, ses parents pensaient ou anticipaient d'être délivrés de l'Égypte. Ils anticipaient la délivrance de la part de Dieu. Le nom de son père, nous est-il dit ici, était Nun. Je ne sais pas si c'est comme ça qu'on se présente, on prononce ça. Nun. Et nous savons par Genèse 48 que son père, Nun, appartient à la tribu d'Éphraïm, qui était la tribu que Jacob avait bénie. On voit ça dans Genèse 48. Selon les commentateurs, cette tribu Éphraïm était la plus puissante de ce temps. Rappelons-nous qu'Éphraïm était un des fils de Joseph. Ainsi, Josué était un parent de sang de Joseph, ou un descendant direct de Joseph. Ainsi, Josué était un parent. OK. Était un parent de sang de Joseph et un descendant direct de Joseph. Et vous devez vous rappeler aussi de Genèse, si nous lisons le dernier chapitre de Genèse, juste avant que Joseph ne meure. Vous vous rappellerez certainement ce qu'il a demandé aux fils d'Israël de faire dans Genèse 50, le verset 25. Et on voit ça aussi dans Exode 13, 19, concernant ses eaux. Et on va aller le lire d'ailleurs, Genèse 50. Il faut bien saisir au verset 25. Joseph fit prêter serment aux fils d'Israël en disant, « Dieu interviendra pour vous à coup sûr et vous ferez remonter mes os loin d'ici. » Les os de Joseph sont devenus en quelque sorte une relique placée dans un sarcophage. Et si on paraphrase un peu, on pourrait dire qu'ils ont été estampés avec l'adresse « Terre de Canaan ». C'est facile d'imaginer, et nous pouvons dire que c'est une imagination en quelque sorte sanctifiée, que le jeune Josué est venu en contact régulièrement avec ce sarcophage. Il l'aurait vu durant ses 40 ans d'errance dans le désert. C'est une partie de son héritage familial, en quelque sorte. Et peut-être même que Josué a-t-il porté ce sarcophage des os de Joseph sur ses propres épaules. Quel privilège pour lui d'appartenir à une famille qui a mis sa confiance en Dieu, la grande tribu d'Éphraïm. D'avoir cette sorte d'histoire à l'égard de Joseph. Et c'est intéressant qu'à la fin du livre de Josué, au verset 24, au dernier chapitre de Josué, devinez où les os de Joseph sont enterrés, dans la terre de Canaan. Donc, Josué était à même de voir qu'en effet, tout était arrivé. Un autre privilège ou bénédiction qui appartient à Josué, Josué était aussi le premier-né de Nun. Cela aussi était un privilège. Au fils premier-né, lui était aussi donné plus de privilèges que les autres enfants. Donc le premier-né, l'aîné, avait plus de privilèges que ses frères. Le premier-né était de la grande délivrance de l'Égypte, lorsque les premiers-nés de l'Égypte furent tués. Mais alors que les premiers-nés d'Israël, eux, étaient épargnés. Pourquoi? À cause de la substitution de l'agneau de la Pâque. Le sang était aspergé sur le linteau des portes afin que l'ange de la mort passe à côté. Mais pensez-vous que Josué pensait à ces événements? Il était le premier-né. Comment ne pouvait-il pas oublier cette nuit lorsque les premiers-nés sont morts en Égypte et qu'il a été épargné? Il faisait partie en quelque sorte de cette génération de premiers-nés qui ont été épargnés. Une autre raison pourquoi Josué a été extraordinairement béni par Dieu nous est démontrée par le fait que Josué a fait plusieurs apparitions clés dans la vie de l'histoire de la nation d'Israël. Nous allons en voir quatre. Josué est tiré sur le volet par Moïse dans Exode 17. C'est la première image que nous avons de Josué. Mais Moïse choisit Josué de quitter les soldats d'Israël et de se battre contre les Amalécites. Nous voyons aussi dans Exode 32 encore, Moïse choisit Josué pour grimper cette montagne où il a reçu les 10 commandements. Nous avons aussi cet épisode dans Exode 33, où Moïse choisit Josué et le met en charge du tabernacle. Et nous avons ici dans Nombre 13, Moïse choisit Josué et 11 autres, entre 11 autres hommes pour espionner la terre de Canaan avant de l'envahir. Donc, Josué est choisi par Moïse lui-même. Quel privilège! Il est réellement devenu le bras droit de Moïse. C'est ainsi qu'il nous est référé lorsque vous ouvrez le livre de Josué. Si on va dans Josué, premier chapitre, au premier verset, il nous est dit « Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, assistant de Moïse. » Quel privilège d'être un assistant de Moïse lui-même. Est-ce que cela ne nous dit pas quelque chose au sujet de Josué? Moïse faisait confiance à l'homme. Il devait y avoir un niveau de confiance, de confidence, pour qu'il puisse donner des assignations à Josué. Et Josué était digne de confiance, responsable, fidèle. Une citation de F.B. Myers dit « Le premier ingrédient pour un bon leadership est un passé fidèle. » Eh bien oui, Josué a un passé fidèle. Chaque regard que nous avons de Josué antérieur à sa fonction officielle ou à la transition au leadership qu'il lui a été donné confirme qu'il était un homme fidèle. C'était un homme extraordinairement béni de Dieu. Notre deuxième point, eh bien, regardant en arrière son histoire, nous pouvons dire que Josué était continuellement modelé, formé par Dieu, de différentes manières, antérieurement à son leadership qu'il assume. Il a été modelé et formé par les épreuves, par les expériences de la vie, par le côte à côte avec Moïse lui-même. Mais en termes d'épreuves, c'est Spurgeon qui disait « Dieu réserve ses meilleurs soldats pour les grandes batailles. » En d'autres mots, les expériences de la vie sont une des principales manières par lesquelles il nous forme, il nous façonne. Une des principales manières par lesquelles il continue cette œuvre en nous. Autrement dit, Dieu utilise le marteau et le bras de l'épreuve et de l'affliction pour nous amener, pour nous former dans une plus grande conformité à Jésus-Christ. Quelquefois, les chrétiens se demandent « Pourquoi est-ce que je souffre? Pourquoi la vie ne pourrait pas être beaucoup plus facile, plus aisée? » Eh bien, on pourrait répondre à cette question sous cette perspective? Eh bien, parce que Dieu a des intérêts investis dans votre développement spirituel. Il veut que vous croissiez. Il ne veut pas que nous soyons aux couches toute notre vie. Il veut que nous soyons matures en Jésus-Christ. C'est ce qui est appelé la sanctification. Dieu veut que nous soyons de plus en plus comme son Fils. Il doit nous former dans toutes nos facettes, dans toutes nos grâces. Et un des outils est la souffrance. Dieu va former cet homme Josué. Il va le former dans l'environnement du désert pour 40 ans. C'est une longue période, 40 ans. Il fait partie de la génération du désert. Et durant cela, cette génération du désert sera exposée à être réellement une bande de plaignards qui n'ont réellement pas expérimenté le changement du cœur, la transformation du cœur. L'expérience du désert de Josué l'aura formé. Il aura appris à faire confiance à Dieu. Il aura appris que ce que Dieu a en effet pourvu miraculeusement par cette nourriture de la manne. Josué aura aussi appris par ses mauvaises expériences, les effets terribles du péché, la rébellion, l'incrédulité. Si on se rappelle bien, la plupart de la génération du désert n'est pas entrée dans la terre promise. Ils sont tous morts, sauf Josué et Caleb. Josué et Moïse les verra frappés par la mort les uns après les autres dans le désert. Il aura vu beaucoup de douleurs, d'afflictions des gens perdant leur bien-aimé. Il aura appris concernant la toute suffisance de Dieu, la fidélité de Dieu par la manne à tous les jours, mais aussi dans des situations critiques où Dieu arrive à cette heure critique. Et on pense ici, se tenant devant la mer Rouge, Dieu ouvre cette mer Rouge. Josué aura vu tout cela. Il aura aussi été là, dans cette occasion, lorsque Moïse a élevé le serpent d'airain pour guérir ces gens qui mouraient de la morsure des serpents brûlants. Quelle étrange vue cela aura été, que ce qui a causé le problème, les serpents, eh bien c'est maintenant un serpent qui agira comme remède. Cela aura convaincu Josué que Dieu encore est un Dieu de salut et que les voies de Dieu ne sont pas nos voies et que ses pensées sont au-dessus des nôtres et que Dieu peut pourvoir les remèdes et les solutions et la délivrance dans les plus étranges et mystérieuses manières. C'est rassurant de dire que les 40 ans dans le désert n'auront pas été des années perdues, à tout le moins pour Josué. Il aura sorti de ce désert un meilleur homme, plus saint, plus résolu, plus déterminé de vivre pour la gloire de Dieu. Une citation de Johnny Erickson, peut-être vous connaissez, vous l'avez déjà lu sa biographie, cette jeune fille qui a plongé, je pense, dans un lac, puis qui s'est brisé les vertèbres ou la nuque, puis qui est devenue paraplégique. Quelqu'un lui a demandé, « N'avez-vous aucun regret? » Elle a répondu, « Oui. Voici mon plus grand regret. » Dans la pleine tourmente de mes souffrances, je me suis beaucoup plainte. Je me suis beaucoup lamenté. Il y avait beaucoup de mécontentement. Peut-être a-t-elle dit, il y avait aussi de la colère. J'ai perdu ma souffrance. Perdre sa souffrance, c'est mon plus grand regret. Perdre les effets de la souffrance, vivre vraiment le moment de la souffrance, non pas comme dans l'aspect masochiste d'aimer souffrir pour souffrir, mais de vraiment apprendre à travers la souffrance, c'est quelque chose. Vous pouvez perdre votre souffrance, votre douleur. La souffrance peut avoir un effet contraire sur nous. C'est cela qui a été avec la plupart de cette génération du désert, mais pas pour Josué. Les souffrances de Josué ont été avantageuses, salutaires, profitables. Elles ont fait de Josué un meilleur homme, un commandant militaire extraordinaire de tout temps. Josué a aussi a été modelé par la guerre. Il sautait dans la bataille, dans Exode 17. Vous avez la première occasion, le premier exemple où est donné à Josué le profil. Vous avez le roi Amalek qui vient combattre Israël à Réphidim, au verset 9. Il nous est dit, « Alors Moïse dit à Josué, « Choisis-nous des hommes. » C'est là que Josué reçoit des instructions spécifiques. Au verset 10, « Josué fit ce que Moïse lui avait dit. » Josué obéit. Il est capable de prendre des ordres. C'est important pour un leader, n'est-ce pas? Vous devez savoir comment servir avant de pouvoir conduire. Vous devez savoir obéir avant de donner des ordres. Et vous vous rappellerez peut-être comment la bataille s'est déroulée à cette occasion-là. Qu'est-ce qui est devenu le fait décisif là? Le facteur clé est Moïse. Moïse est sur le dessus de cette montagne, au verset 11. « Lorsque Moïse élevait la main, Israël était le plus fort. Et lorsque Moïse reposait la main, Amalek était le plus fort. » Qu'est-ce que vous pensez que Josué a appris à cette occasion-là, dans ce moment-là? Qu'est-ce qu'il a appris concernant l'expérience du champ de bataille? Qu'est-ce qui a modelé sa pensée à ce temps particulier alors qu'il est amené à une réflexion peut-être sur ces événements? Josué aura appris que j'ai la responsabilité de sortir et de prendre l'épée et de sauter sur le champ de bataille. Mais Josué aura appris que la victoire, ultimement, ne dépend pas d'une épée humaine ou la force de l'armée. On se rappellera de Gédéon. Il y avait, je ne sais pas combien de milliers de soldats à sa disposition. Puis le Seigneur a diminué son armée jusqu'à 300. Dépend pas de la force de l'armée, mais la foi en Dieu. Et de prévaloir l'intercession. Il aura appris concernant l'importance de la prière. Est-ce qu'il y a une plus grande arme que la prière? Peut-être cela explique-t-il qu'il soit un tel homme de conquête. Il savait ce que c'était que de prier. Josué était continuellement modelé par Dieu, par l'expérience du désert, par cette expérience spécifique sur le champ de bataille. Mais comme on le dit, qu'on vient de le dire, Josué a aussi été modelé par ses expériences côte à côte avec Moïse. Selon la Bible, nous croissons de nos épreuves et de nos afflictions. L'apôtre Paul le mentionne dans Romains 5, 3, il nous dit, « Bien plus, nous nous glorifions même dans les tribulations. Nous sommes modelés et formés par nos luttes contre le péché, contre le diable, contre notre propre chair. » C'est ce qu'il nous dit aussi dans Romains 7, dans Éphésiens 5, dans Éphésiens 6. Mais il y a aussi une autre façon que Dieu fait que nous croissions. Nous sommes modelés et formés dans une ressemblance à Christ par l'influence d'autres gens. La Bible parle beaucoup concernant l'influence de Jean. De Jean, G-E-N-S, non pas le personnage. Mais ça pourrait être aussi le personnage. Il y a un nombre de proverbes qui parlent d'influence d'amis. Prenons le proverbe 13 au verset 20, la première partie A. Nous montre un contraste. La première partie de ce contraste est positif. Celui qui marche avec les sages devient sage. On voit ici l'influence positive. Et ensuite, dans le verset 20b, mais celui qui fréquente les insensés s'en trouve mal. C'est un négatif. Paul utilise un proverbe similaire dans 1 Corinthiens 15, 33, « Ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. » Paul, lorsqu'il a écrit ses lettres, souligne souvent l'importance de l'imitation. Dans 1 Corinthiens 4, 16, dans 1 Corinthiens 11, 1, dans Philippiens 3, 17, il nous fait remarquer ceux qui, parmi vous, sont dignes d'imitation. Et Josué sera modelé. Comment ne pouvait-il pas être modelé par Moïse? Il a appris beaucoup de Moïse. Nous pouvons être sûrs concernant ce que cela signifiait d'être un homme, un serviteur, un leader. Comment ne pouvait-il pas devenir sage, marchant avec un homme sage? Il a passé beaucoup de temps avec Moïse sur le mont Sinaï. Et c'est intéressant si vous faites une comparaison de la vie de Moïse et de celle de Josué. Il y a beaucoup de parallèles, de similitudes. Par exemple, les deux personnages ont traversé une rivière par le moyen d'un miracle. Les deux auront une rencontre très personnelle avec Dieu. Moïse a eu une théophanie d'un buisson ardent. Josué a eu une rencontre avec le capitaine de l'armée du Seigneur dans Josué 5. Moïse a tenu un bâton, Josué une épée. Le Seigneur parlera à Moïse et à Josué. Si nous pensons à ceci, les deux hommes, avant qu'ils ne soient des leaders, ont passé beaucoup de temps dans le désert. Moïse a passé 40 ans dans le désert, Josué 40 ans. Il n'y a pas de doute que Moïse a aidé à préparer Josué. Josué sera modelé par cet homme pieux comme un exemple de douceur, d'humilité, de fidélité, de prière. Moïse deviendra un de ses amis mentors, non pas un ami père. Les pères, c'est de ceux qui sont du même acabit, mais un ami mentor. Josué était extraordinairement béni par Dieu. Josué était continuellement modelé par Dieu. Maintenant, Josué a été sévèrement testé par Dieu. Josué sera testé sur la base de la loyauté et de la fidélité. Tôt ou tard, nous avons à faire face à cette issue. Tôt ou tard, Dieu, d'une façon ou d'une autre, le place sur le premier, on pourrait dire le premier rond. Vous savez, sur un poêle, une cuisinière électrique, on a quatre ronds, c'est le premier au bord qui chauffe le plus. Fait que souvent, le Seigneur nous met sur le premier rond, le premier brûleur, le rond d'en avant, celui qui chauffe le plus, qui est le plus fort de nos vies. Où se tient notre loyauté? Qui servez-vous réellement? Qui est le numéro un dans votre vie? Jésus a dit, Vous ne pouvez servir deux maîtres. Lorsqu'est venue l'issue de la qualité de disciple, Jésus a été très clair. Qui aimez-vous le plus? Aimez-vous votre père, votre mère, votre mari, votre épouse? Qui aimez-vous le plus? Rappelons-nous Abraham. Il a été testé. Est-ce que tu m'aimes plus que le fils de ta chair et de ton sang, Isaac? Et on sait qu'il a attendu longtemps la promesse d'avoir un fils, Isaac. Dieu dit, je vais tester Abraham. Prends ton fils Isaac, amène-le sur la montagne et prépare le sacrifice. Comment est-ce que tu vas m'obéir? Josué sera testé en termes de loyauté et de fidélité d'une façon assez rapide. Nous voyons dans Nombre 11 et dans Nombre 13. Dans Nombre 11, nous avons une situation où Josué est mis à l'avant et Moïse se plaint à l'Éternel qu'il est dépassé et qu'il a besoin d'aide. L'Éternel lui dit, « Ok, Moïse, je vais t'aider. Je vais te donner 70 hommes. » Au verset 16, l'Éternel dit à Moïse, rassemble auprès de moi 70 des anciens d'Israël, de ceux que tu connais comme anciens et officiers du peuple, amène-les à la tente de la rencontre et qu'ils s'y tiennent debout avec toi. Et Dieu a béni ces 70 hommes, il a pris de son esprit qu'il avait donné à Moïse et le mis sur eux. L'Esprit de Dieu est venu sur eux. Au verset 25, l'Éternel descendit dans la nuée et lui parla. Mais tous ces 70 hommes, il leur a maintenant été donné une infusion, une puissance du Saint-Esprit, une sorte de baptême, et ils ont commencé à prophétiser. Josué s'en est aperçu parce que les deux hommes, et nous le voyons au verset 26 et 27, on va lire les versets 26 et 27, c'est dans Nombre 11. Pour se mettre dans le contexte, il nous est dit deux hommes, l'un nommé Eldad et l'autre Médad, étaient restés dans le camp, et l'Esprit reposa sur eux, car ils étaient parmi les inscrits. Cependant, ils n'étaient pas sortis vers la tente, et ils se mirent à prophétiser dans le camp. Un jeune homme courut l'annoncer à Moïse, et dit, « Eldad et Médad prophétisent dans le camp. » Et on peut voir la réponse de Josué au verset 28. Il nous est dit, « Josué, fils de Nun, assistant de Moïse depuis sa jeunesse, prit la parole et dit, « Moïse, mon Seigneur, empêche-les. » Quel est son problème? Nous pouvons voir que son problème est que Josué est jaloux pour Moïse. Ces hommes sont en train de voler la vedette ici. Et on peut dire qu'on n'aime pas ce qu'on voit ici. Ils montrent de la fidélité et de la loyauté, mais à qui? À Moïse, pas à Dieu. Dans des circonstances normales, ce pourrait être une bonne chose. On a tous besoin d'hommes qui soient loyaux envers leur conducteur, mais Moïse n'est pas tellement impressionné. Il ne loue pas Josué. Il ne le félicite pas, si on peut dire ça de cette façon-là. Il ne dit pas à Josué, « Merci mon ami de t'inquiéter pour moi. » et faire en sorte que je sois bien en vue dans mon leadership. Non, Moïse voit les choses différemment. Et on voit au verset 29. Moïse lui répondit, « Es-tu jaloux pour moi? Puisse tout le peuple de l'Éternel être composé de prophètes, et veuille l'Éternel mettre son esprit sur eux. Vous voyez, Moïse porte ses yeux sur la gloire de Dieu, la cause de Dieu. Le royaume de Dieu est beaucoup plus grand que le mien. C'était un temps de test pour Josué. Il avait besoin d'apprendre, oui, concernant la loyauté et la fidélité humaine, mais cela devrait toujours prendre la deuxième place pour notre ultime loyauté et fidélité qui est Dieu lui-même. Cela explique pourquoi Moïse pouvait remettre la conduite à Josué même lorsqu'il était encore en force. Moïse aurait pu être en poste encore 10-15 ans. Il ne souffrait pas d'infirmité due à son âge. Il a remis la conduite entre les mains de Josué parce que Moïse est concerné pour la gloire de Dieu et non pas pour sa propre gloire. La plupart des êtres humains sont plutôt concernés pour leur propre gloire. Josué a des leçons à apprendre concernant l'ultime loyauté et fidélité. Un autre incident dans la vie de Josué, dans Nombre 13, est aussi concernant la loyauté et la fidélité. Il est choisi parmi d'autres pour aller espionner dans le pays de Canaan. Vous n'êtes certainement pas étranger à cette péricope. Ils y sont allés et ont espionné le pays, et reviennent et le rapport a été donné au verset 27. Le rapport est donné par la majorité. Ils ont vu le pays, et le pays est de lait et de miel, est merveilleux, mais on doit ici regarder à tout le portrait. Et il y a beaucoup de négatifs au verset 28. Il nous est dit, « Mais le peuple qui habite ce pays est puissant, les villes sont fortifiées, sont très grandes. Nous y avons même vu des enfants d'Anak, des géants. » Et ils ont continué au verset 28 et 29. C'est un rapport obscur, triste, condamnant, malheureux. Et ils ont eu, par l'effet d'avoir dit ce rapport, un effet profond dans les rangs du peuple de Dieu. Et on le voit à partir du verset 14:1. Le peuple se plaint, se lamente. Et il aurait été facile de capituler sous la pression des pères, mais Josué ne l'a pas fait. Au verset 6 du chapitre 14, avec son ami Caleb, se met de l'avant, il donne leur rapport. Et il est clair qu'ils mettaient leur confiance en Dieu. C'est là que leur loyauté se tient. Ils ont été testés en autant que leur fidélité à Dieu et à ses promesses. Ici, Josué a passé avec, on pourrait dire, avec honneur, le test. Josué a été extraordinairement béni. Josué a été continuellement modelé. Josué a été sévèrement testé. Maintenant, notre dernier point. Josué a été patiemment préparé par Dieu. La vie de Josué pourrait être divisée en trois périodes majeures. Les premiers 45 ans, nous ne savons pas en ce qui les concerne, mais elles ont été vécues en tant qu'esclaves en Égypte sous la tyrannie de Pharaon. Les 45 années suivantes ont été vécues dans le désert. Les 40 années suivantes, plutôt, ont été vécues dans le désert. Alors, si on fait l'addition, 45 plus 40, ça fait 85. C'est à peu près l'âge de la retraite, qu'on veut prendre notre retraite à 85 ans. Cela ressemble à Moïse qui a passé beaucoup de temps dans le désert. Quelques 40 ans. Jean-Baptiste, 30 ans. Le Seigneur Jésus était 30 ans avant de commencer son ministère. Josué a été à l'entraînement pour 40 ans. Lorsque nous regardons à Josué durant ses 40 ans, nous le voyons quelquefois, mais la plupart du temps, il est dans l'ombre. Il ne fait rien de très grand comparativement à Moïse. Mais Dieu est en train de le préparer. 40 ans, c'est long, 40 ans. Est-ce que vous pouvez vous imaginer, et pour ceux même qui sont encore aux études présentement, attendre 40 ans avant d'obtenir votre diplôme dans lequel vous étudiez? Ça pourrait être long un peu, pas mal, beaucoup. Hein? Moïse et Josué ont été préparés par Dieu patiemment 40 ans. Et peut-être parce qu'une des grâces que les conducteurs ont désespérément besoin, c'est la patience. Dieu est tellement patient à nous préparer, je me dois d'être patient lorsqu'on en vient à faire le travail qu'il nous donne. Un conducteur doit apprendre que l'emploi du temps de Dieu est de loin différent du sien. Nous sommes une bande d'impatients. Et on ne trouve pas ça facile d'attendre. On n'a qu'à prendre des événements usuels de la vie courante. On n'a pas beaucoup de trafic, mais quoi qu'on en a, on en a plus parce qu'il y a plus de monde dans la ville, il y a plus d'autos. Quand on attend des fois dans 2-3 minutes à la lumière, on prend le pèse sur le bouton panique, puis que là, on se fait aller la margoulette pour dire toutes sortes de choses. C'est pas toujours édifiant des fois. Hein. Lorsqu'on attend dans les restaurants, si on va au McDo, si on va ailleurs, quand on va au Mike's, des fois, nous autres, on a des réservations, mais quand on n'a pas de réservation puis qu'on attend, des fois, on respire par le nez, hein, mais on n'aime pas ça attendre. Nous sommes une bande d'impatients. Nous aimons que nos problèmes soient réglés vite. Nous aimons plutôt prendre des pilules plutôt que de voir ce qui en est la cause. Les gens viennent à l'Église pour avoir des solutions rapides pour des problèmes de péché qui sont là depuis des années. Et si vous ne les aidez pas dans un court laps de temps, ils vont ailleurs pour quelques pilules magiques qui vont tout changer. Mais il n'y a pas de solution look-et-look. Vous savez, look-et-look, ce cow-boy américain dans les comics qui tire plus vite que son ombre. Il n'y a pas de solution look-et-look avec le Seigneur. Les pasteurs peuvent devenir là, L-A-S, de temps en temps. Des gens qui ne changent pas très rapidement. Leur engagement ne semble jamais assez fort, assez ferme. Leur implication dans l'Église semble minime. On peut se dire, j'ai été là 5 ans et il n'y a pas eu de croissance. Je pars, je m'en vais. Qu'en est-il au sujet de s'attacher à notre mariage lorsque la romance n'est plus là? Lorsque les habitudes chroniques semblent ressortir de partout, je peux tenir 3 ans, 4 ans, 5 ans, mais 6 ans, puis si ça ne change pas, bye-bye. Comment expliquez-vous l'épidémie de désertion des pères, des mères, des enfants, des maris? Qu'est-ce qu'ils veulent? Eh bien, ils veulent du changement. Dans beaucoup de situations, c'est ce qu'ils veulent. Et lorsque les choses ne changent pas, ils se sauvent, ils filent, au lieu d'attendre, de s'accrocher, de faire confiance à Dieu. Ils abandonnent le navire, ils jettent la serviette. Où sont les Josué, ceux qui sont restés dans la course, ceux qui disent « Seigneur, je suis ici, peu importe combien de temps cela prendra. » C'est quelque chose. Vous devez dire ceci concernant Josué, il est patient. Vous voyez, pour être un Josué, vous devez accepter de vivre dans l'ombre, de vivre dans le désert, d'être testé durant une période de temps. Quelquefois, pas toujours, cela peut être une longue période. Dieu nous a donné Josué. C'est ce que nos foyers ont besoin. C'est ce que nos églises ont besoin. Nous avons besoin de Josué comme homme. Prions. Père éternel, nous te bénissons pour l'accès à ta parole, notre Dieu, que nous avons à tous égards. Seigneur, notre Dieu, nous te bénissons de ce que tu nous as donné, l'Esprit Saint, pour nous diriger à travers ta parole, pour saisir et comprendre. Seigneur, alors que nous avons regardé cet homme, Josué, Seigneur, nous avons besoin d'imitateurs, Seigneur Dieu, nous avons besoin de personnages à imiter, Seigneur. C'est certain que le personnage ultime à imiter, c'est la personne de ton Fils, le Seigneur Jésus. Mais nombre d'autres personnages dans ta parole sont là pour comme exemple que tu nous as suscité, Seigneur, afin que nous puissions apprendre à marcher d'une façon digne de toi sur cette terre, Seigneur. Seigneur, puissions-nous, dans cette Église, être des hommes comme Josué, être aussi des femmes, Seigneur, qui marchons avec zèle pour toi, Seigneur, pour ton service. Seigneur notre Dieu, Seigneur, puissions-nous te laisser bâtir ton Église, Seigneur, avec les matériaux que toi tu désires, Seigneur, et que toi-même tu formes et tu modèles. Seigneur, que ton nom soit béni, Seigneur notre Dieu, pour le restant de cette journée, dans le nom de Jésus. Amen. Amen.